il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, hein. C'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la 4e saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur deux, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'accueille à la maison Mam Ibra. Comment Anne. Ça va, Mam Ibra? Anne.
écoute, ça va, très bien. Matinale ce matin. Merci pour l'invitation, merci pour la réception. Pas de café pour moi ce matin.
Non, toi tu bois pas de café, mec.
Mais très content d'être là et très cool. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus, donc sympa.
De ouf. Pour la petite histoire, avec Mam, on était en études supérieures ensemble à la Sports Management School, très grande école.
Exact. Et voilà, on en a fait du chemin depuis, donc très 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 cool d'être là et de pouvoir échanger avec toi ce matin.
Trop stylé. Bah, merci d'avoir accepté l'invite, mec. Oui, clairement, t'es très matinal. Au début, j'ai voulu te titiller à dire 8 heures. Tu m'as dit, bah non, 5 heures. J'ai dit, bon, restons sur 8 heures. Ça sera très bien. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est un lefto, le Mam, et pourquoi il boit pas de café. Mam, je vais te laisser te présenter, en fait, pour ceux qui nous écoutent.
Ok. Donc, du coup, pour faire assez court, je suis athlète de haut niveau depuis plus de 12 ans maintenant. J'ai participé aux deux derniers Jeux Olympiques, donc à Rio et à Tokyo. J'ai participé aux championnats du monde, à tous les championnats d'Europe depuis 2010. Je suis double champion de France. L'athlétisme est deux tiers de ma vie aujourd'hui. C'est le sport où j'excelle le mieux, hein, même si j'aurais préféré peut-être faire du foot plus jeune. mais voilà, l'athlète, c'est mon sport, c'est mon petit bébé à moi, dans le sens où pour y arriver, c'était pas forcément très simple. Mais voilà, c'est aujourd'hui une de mes plus grandes réussites dans ma carrière ou dans ma vie d'homme, du moins. Et à côté de ça, les écoles. Le réseau, la construction de mon réseau, la construction de mon parcours et de cette deuxième vie qui arrive petit à petit après l'athlète. Et donc, dans le sport, c'est sûr, c'est plutôt sport business. Et voilà, donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui.
Trop stylé. Ta discipline, du coup, mètre?
Ouais, j'en ai pas parlé, le 400 mètres. Ouais. 400 mètres et le 4x400 mètres. Et donc voilà, une des disciplines les plus, je pense, les plus difficiles en termes d'entraînement, avec l'acide lactique qui fait très très mal. Mais une très très belle discipline, le tour de piste, qui parle à beaucoup de gens normalement.
Trop stylé. Et aujourd'hui, du coup, donc maintenant, comme tu dis, t'es en reconversion aussi en même temps, parce que tu continues de faire du sport, mais... Ouais. Là, du coup, aujourd'hui, tu fais quoi ?
Du coup, je suis chef éditeur chez Sport Stratégie via mon agence que j'ai créée depuis janvier, qui est Mi Agency, et que je développe aussi aujourd'hui. Je développe, entre guillemets, des talents sportifs ou non. Et je crée des activations avec des marques plutôt sympas comme Red Bull cette année, avec qui j'ai pas mal bossé, pour qui j'ai livré pas mal de choses et avec qui j'espère continuer à grandir, puisque c'est assez cool.
Trop stylé. Eh ben écoute, on rentre dans le vif cash avec un très beau profil encore une fois. Mam, est-ce que tu peux toi nous donner aujourd'hui, en tant que du coup athlète de très haut niveau, si je puis dire, ta vision, ta définition de l'échec ?
Bah, ma définition de l'échec aujourd'hui, c'est, je dirais, ne pas pouvoir réaliser un objectif. Mais le réel échec, et je pense avoir eu un échec dans ma carrière, c'est la blessure. La blessure, parce que une blessure peut remettre en question toute une carrière. tout un bagage ou toute une construction de performance peut tomber de très très haut voilà, quand je pense à un échec et quand je pense à une carrière sportive, je pense à une blessure parce que c'est rare de voir tout ce qu'un athlète de haut niveau peut mettre en place pour performer et tout peut être détruit en une fraction de seconde avec simplement une blessure et peut te faire passer de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre, je dirais plutôt et ça c'est très comment dire, c'est très frustrant, c'est mentalement ça peut bousiller des carrières, ça peut remettre en question pas mal d'athlètes sur des périodes ça peut être un très très gros frein vraiment dans la carrière d'un jeune ou d'un très grand athlète.
Ouais, je pense qu'on se rend pas compte à chaque fois, justement, déjà on le répétera jamais assez, mais en tant que sportif d'élite, le plus gros risque et la plus grosse peur de toute ta carrière, c'est justement la blessure, parce qu'on se rend pas compte de tous les sacrifices que vous mettez en place dans la vie au quotidien. Les réveils tôt, l'hygiène de vie impeccable, les sacrifices à pas voir les potes ou les familles, exact. Les déplacements hyper loin, etc. Et le jour où tu te donnes tout ça pour avoir une putain de blessure, bah c'est vrai que t'as l'impression que ton monde s'écroule, mais je vais pas en dire plus parce que je vais te laisser du coup introduire ça, parce que bah du coup t'as très bien teasé. Aujourd'hui justement on va parler blessures quand on est un sportif d'élite, ce qui est vraiment la pire chose, comme tu viens de le dire, dans une carrière de sportif pro. Et donc bah écoute Mam, je vais te laisser introduire, ça s'est passé quand, c'était en quelle année et puis on va creuser un petit peu tout ça ensemble.
Alors du coup pour moi ça a été en 2017, sachant que de 2013 à 2016, numéro 1 français, j'ai enchaîné toutes les plus grosses compétitions. Je suis à ce jour toujours le seul athlète français à avoir réalisé moins de 45 et 30 secondes depuis 30 centièmes, pardon, depuis 2009, personne ne l'avait réalisé. Donc moi, j'étais vraiment sur la pente ascendante, avec des participations en Diamond League, au championnat du monde, au JO, etc. Donc j'avais vraiment une assise sur ma discipline. En plus, avec le relais, on était quand même très, très performant. Donc ça va vite, hein. Enfin, 2013, 14, 15, 16, avec une régularité et une consistance à très haut niveau et à moins de 46 secondes assez importante. Donc voilà, ça faisait de moi le leader de la discipline avec vraiment une consistance telle que ça me permettait d'envisager de belles choses sur la deuxième partie ou ma deuxième Olympiade qui serait donc de 2016 à 2020. Sauf que des enchaînements, quand t'enchaînes aussi autant de saisons pleines, j'arrive sur une année ou quelques mois après les Jeux qui sont assez difficiles à digérer, je pense. Une décompression, même si j'allais à l'entraînement avec la même envie, mais pas forcément le même degré, je dirais, de motivation. Donc j'arrivais à l'entraînement, j'étais dedans, mais avec une assurance un peu différente. On commençait à se poser des questions sur peut-être une année où on va lever un peu le pied, puisque quatre saisons aussi pleines, avec autant de déplacements, autant d'émotions surtout. Parce que le degré d'émotion, vous allez comprendre pourquoi à la suite du podcast, c'est assez très important. Le degré d'émotion était tel que des fois, tu finis à plat après une belle émotion, après une mauvaise émotion, après un mauvais championnat ou après un mauvais résultat. Et moi, je pense qu'en l'occurrence, les Jeux de Rio en 2016, émotionnellement parlant, étaient très chargés pour moi. Puisque j'étais le seul finaliste européen en juin 2016 à ne pas avoir participé au JO en individuel pour des raisons plutôt, je dirais, de minima imposées par la Fédé. Mais moi, j'avais répondu au minima olympique déjà, donc j'étais pas sûr, mais je pense aller à 90% sûr de faire partie des athlètes qualifiés en individuel. Finalement, non. Ça a été uniquement avec le relais, avec des athlètes qui étaient pas forcément au top de leur forme sur la première partie de saison, mais qui l'ont été au jeu, mais on n'a pas réussi à accrocher cette finale. Donc je pense que ça a été un premier coup pour moi durant l'été. Et à la reprise de l'entraînement, ça se passe bien, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, le temps passe, ça va. Je me prépare pour une nouvelle saison 2017, je pense que ça va aller. Sauf que sur un entraînement, je me fais une blessure assez grave. Je me romps le tendon direct et réfléchi du quadriceps gauche. Donc en gros, ça serait l'équivalent d'une grosse frappe, je dirais, dans un mur. Et sauf que c'est pas le mur qui casse, mais c'est votre tendon. Et donc du coup, ça m'est arrivé sur une séance d'entraînement... hyper douloureux et là c'est le début de l'échec, puisque déjà le premier objectif qui était sur cette saison 2017 d'asseoir entre guillemets un peu ma domination n'a pas été possible, puisque ça a été déjà un premier mois assez alité pour éviter toute complication et pour laisser le tendon se refaire tout seul.
Donc c'est la cuisse, on est d'accord,
c'est
là
la
du
cuisse,
coup
ouais. c'est la cuisse. Cuisse, le haut de la cuisse. Et donc un des tendons les plus importants et les plus forts.
Tu le fais comment ça du coup ? Genre à quel moment tu sens genre que ça lâche ? Tu fais genre sur une axelle ?
Sur une séance, c'était des 120 mètres. Et là, ça a rond en allant assez vite, hein, vraiment en pleine course. Ça se rompt, je sais pas trop, j'ai pas beaucoup l'habitude de me blesser. Et là, c'est la grosse blessure. C'est la grosse blessure, c'est beaucoup de questionnements, comment je vais revenir. Donc dans un premier temps, les premiers diagnostics, c'est oui, beaucoup de repos, les premières IRM, non, ça va aller, donc on va se prendre en charge assez rapidement. Donc je fais un mois alité avec deux IRM dans le mois pour voir un petit peu. Je vais au CERS de Boulris pour entamer une rééducation, et pour moi ça va. Pour moi, ça va, ça se remet en place assez rapidement. Je peux faire des petits exercices, courir un peu. Ce qui était très important au CERS de Boulry, c'était reprendre un peu confiance en moi sur la partie appui, sur la partie un peu foulée, courir à basse intensité. Hein. Et donc, je repars sur un cycle d'entraînement après en mi-septembre. Et là, je me dis, je préfère tout changer parce que j'ai des petites problématiques en termes de transport, en termes d'entraînement. Je souhaite aller en Afrique du Sud, comme d'habitude. Normalement, c'est en janvier. Mais là, je décide de partir sur une période un peu plus longue. Et dès fin novembre, pour partir à peu près un mois. Finalement, j'y reste 3 mois. Mais okay. Je reviens juste pour les vêtements, mais j'y reste 3 mois. Une expérience humaine incroyable. Incroyable, l'entraînement super dur, mais ça va, je m'entraîne complètement, je me vais dire normalement, je suis dans un nouveau cadre, j'ai des nouveaux repères, je me prépare plutôt bien, ce que je propose à l'entraînement, c'est de qualité, je suis dans un groupe où les gens ont toujours le sourire, où il y a un dépaysement, je dirais, puisqu'il y a des jeunes étudiants qui sont dans un système universitaire qui fait qu'ils doivent avoir des résultats au niveau du sport pour avoir des bourses, etc. Alors que moi, je suis l'Européen qui arrive et qui est juste super content d'être là. Il y a un athlète américain qui rejoint aussi le groupe avec une vision du travail complètement différente, où lui, l'entraînement, c'est déjà la compétition. Alors que nous, c'est... non, l'entraînement, c'est un moment de partage aussi avec tout le monde et la compétition, elle viendra en temps et en heure. Donc ça se passe correctement, je fais des premières compétitions, je fais au mois de mars 46-50.
L'Afrique du Sud, pardon, excuse-moi, je reviens dessus même, ouais. L'Afrique du Sud, tu avais l'habitude d'y aller, tu dis, tu y allais
oui.
tous les ans.
Avec l'équipe de France, on avait l'habitude d'y aller tous les ans en camp de base en janvier, de okay. manière générale, pas au même endroit. Nous, avec l'équipe de France, c'était plutôt à Potchefstroom. Et okay. Alors que là, moi, j'étais à Bloemfontein, la capitale économique, mm-hmm. et qui ne porte juste que le nom, puisque c'est vraiment c'est pas un village parce que c'est super grand, mais c'est des gens qui sont qui vivent comme nous il y a peut-être 15-20 ans, quoi. Okay. Donc du coup, un peu de racisme forcément.
Beaucoup en Afrique du Sud. Hein.
Malgré le temps qui passe, encore beaucoup et des gens qui vivent très très simplement.
Ok.
Donc pour moi c'était cool. Franchement,
je dis ça parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est justement au moment où t'es en pleine reconstruction, où t'es en pleine prise de confiance, tu veux repartir un peu d'une page blanche. Ouais. Tu sors un peu justement de tout ce que tu connais, tout ton environnement de confort, et tu vas te foutre totalement autre part pour repenser justement toute ta routine, toute ta dynamique, tout ton mindset, parce que du coup, tu n'as plus de repères et tu es obligé de repartir à zéro. Ouais, et ça, on le voit souvent dans l'échec, et c'est hyper important.
Hyper important. En plus, moi, je rejoins, enfin, je ne le dis pas tout de suite, mais je rejoins le groupe du recordman du monde et champion du monde et champion olympique Wade Van Niekerk. Lui, je pense qu'il est un très très bon ami aujourd'hui. Je pense que il était dans le même cas de figure, dans le sens où lui, donc il est champion du monde cette année-là. 2016, il est champion olympique. Et en 2017, il est champion du monde assez facilement. Il domine la discipline. Il fait aussi une deuxième place sur le 200 mètres. Et en fait, sur un événement caritatif, il joue au flag et il se fait les ligaments croisés. Et je pense que lui, en termes de bêtises, je dirais sur le moment, hein, même si je ne sais pas si je peux le dire ça comme ça, c'est vraiment bête. Hein, tu te fais les croiser quand tu es à ce niveau-là, parce que c'est encore un niveau au-dessus. Hein, on ne va pas se le cacher. Et il est dans le même cas de figure que moi. Aujourd'hui encore, hein, c'était en 2017, donc c'était il y a 4 ans, et là, il perd son titre olympique cette année, et surtout, il part encore plus que moi d'une page blanche, parce que quand t'as atteint de tels succès et de revenir à zéro, de ne même pas se qualifier sur une finale olympique cette année, alors que t'es le recordman du monde, je pense que c'est encore plus difficile, mais c'est pas vraiment le sujet, c'est juste de dire que une blessure peut te mettre encore plus bactère. Mmh. Et on a partagé des moments pendant les Jeux après sa partie indiv. Et là, on s'est rendu compte que sans la famille, sans toutes ces belles personnes qui sont autour de nous,
l'entourage,
ça ne pourrait pas marcher. Et lui, par rapport au Covid et le fait que sa famille ne soit pas là, et comme on est assez proche, d'avoir des visages familiers, être présente pour toi dans un moment difficile, c'est très important. Et lui c'est une partie importante entre guillemets de ma vie ou de ma carrière, puisque quand je me suis blessé, j'étais là-bas, j'ai passé du temps avec lui, même si moi j'étais plus en avance, parce que ma blessure était vraiment derrière moi, était quand même un peu moins lourde que la sienne. Avec la volonté, avec les entraînements, je me suis dit ça y est, je vais tout casser. Et tout le monde se dit attendez, il s'est blessé une année, mais quelques mois, il s'entraîne dans le groupe de Wade Van Niekerk, qui va revenir, il va faire 43 secondes, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, pas du tout, le corps était marqué. Et du coup, je fais mes deux premières compétitions, ça se passe bien. Au mois de mars, je fais 46-50, ça me place déjà assez bien dans le bilan français. Je prends la tête des bilans de toute façon, puisque c'est une des premières compètes. Et en fait, sur la saison, je fais pas mieux. Je fais pas mieux qu'une compétition au mois de mars. Je vais au championnat de France, je fais troisième, mais vraiment à la bagarre, et parce que le niveau sur le championnat n'était pas ouf. Donc je me qualifie avec le relais au championnat du monde, au championnat d'Europe à Berlin. Mais je tiens ma place en série, mais pas en finale, parce que j'ai pas les meilleurs temps dans la saison. Et difficile, parce que c'est un des premiers échecs pour moi. Quand t'as été sur le haut de la fiche pendant autant de temps, descendre comme ça, ne pas faire la finale, c'était difficile.
En fait, du coup, genre, t'as vraiment deux temps là dans ton échec à toi, si on analyse bien le truc, du coup, qui est du coup le premier coup de massue, qui est la blessure en tant que telle, où du coup, t'as quand même une période de doute, même si quand t'en parles, là, on sent, je voulais revenir dessus après, mais on sent que t'es vite passé dessus parce que t'avais déjà un gros mental d'acier. Et après, t'étais en Afrique du Sud, donc premier élément déclencheur, tu vas en Afrique du Sud, tu te réentraînes, tu te remets dedans pour faire une première compète, et là, les compètes se suivent. Et là, tu te dis, putain de sa mère, genre, j'étais au top niveau, j'étais numéro un français. Pendant 4 ans, j'ai survolé le truc. Et là, je me rends compte que mon corps, là, il veut pas me suivre, l'enfoiré.
Il veut pas.
Et là, genre, là, c'est le deuxième coup de massue, genre, après, en fait.
C'est le deuxième coup de massue. J'enchaîne des compétitions que j'avais l'habitude, même une compétition qui m'avait fait beaucoup de bien en 2016, où je gagne la course. Je prends mon ticket pour les championnats d'Europe, mais vraiment, le chrono demandé, c'était 45-90. Je fais 45-90. Et je me souviens, c'était en juin. J'y vais en me disant, bon, allez, il faut que je fasse un bon chrono pour être bien placé au championnat de France. Et en fait, je fais 46-80. À toute patate, quoi. Genre, je suis vraiment à mon max, je comprends pas. Je vais au championnat de France en serrant les dents, ça passe. Parce que l'événement fait la perf. Et je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de pression ou d'être sur une grosse, grosse compétition. C'est ça qui me fait kiffer. Et quand la pression est à son maximum, quand t'es attendu, les flashs, les médias, j'ai couru dans des stades avec plus de 60 000 personnes. J'ai eu l'opportunité aussi de courir au Stade de France sur le dernier meeting Arriva où on était quasiment 56 000 et j'étais jeune, seul français sur la course et le public qui crie, etc. C'était une folie. Et donc ça, en fait, moi, j'étais rentré dans ce contexte-là. Et en fait, je repassais sur des compétitions moins importantes avec zéro public, pas trop d'ambiance, limite c'était les stades pendant le Covid et c'était dur pour moi, tu vois, c'était vraiment vraiment dur et en fait la seule possibilité pour moi de revivre ça, c'était soit de faire des sélections ou soit de revenir à mon niveau et ça a mis du temps, sachant que ce que je dis pas, c'est que les médecins me disent ça va prendre entre 24 et 36 mois. C'est énorme dans une carrière, c'est énorme pour la motivation, c'est énorme pour y a tout qui rentre en jeu, la perte d'argent par rapport aux sponsors, ne pas participer à des meetings, la reconnaissance des gens.
Parce que là, on parle de ça, t'as quel âge toi à ce moment-là?
Moi, j'ai 26 ans, tu vois, c'est t'es dans la force de l'âge, c'est le moment, et en fait, moi, j'ai pas vécu les belles années entre 26 et 29 parce que pendant 3 ans, il fallait que je me reconstruise, que je refasse des choses. Donc, je ne me suis pas construit sur la piste, mais plutôt en amour, dans le sens où j'ai fondé ma famille à ce moment-là. Donc, ma compagne, on a 2 enfants aujourd'hui. Et ça a été vraiment cette période de mal-être, parce que j'avais un mal-être, hein, c'est certain, par rapport au sport. Et j'ai retrouvé un peu... De joie de vivre à côté et là quand t'as des enfants c'est encore plus la joie parce que c'est fou d'être papa mais du coup sur cet enchaînement là ce qui a été vraiment difficile c'était tout ça repartir, pour moi c'était, je repartais à zéro quoi. Je repartais à zéro, ça a mis vachement de temps avant que je puisse revenir à mon top. J'ai recouru en 45 secondes seulement en 2019, donc on s'est qualifié sur les championnats du monde à Doha, qui nous ont qualifié pour les JO. Je suis revenu dans un système de performance, mais encore en dessous de ce que je pouvais faire avant. Donc c'était très 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 frustrant. Et
du coup, ce qui est drôle, c'est pas drôle du tout, mais là, donc, t'es en train de repartir, tu te remets dedans, 2019, tu recours un bon temps, donc tu te dis, bon, allez, putain, là, j'ai cravaché, ça fait 3 ans.
C'est bon, c'est le moment.
Putain, Covid, genre, ouais. les JO, genre, 2020, en fait, nique. Donc là, t'es en train, genre, de t'entraîner comme un mutant pour repartir, t'es en train de retrouver des sensations, et on te recoupe une nouvelle fois l'herbe sous le pied, quoi.
Et je pense que mon erreur a été aussi, avec le Covid, de dire, bon, je fais pas de compète. J'en ai fait une, mais pas sur ma discipline, en tant que lièvre, sur un 800 mètres à Monaco. Parce que voilà, c'était le meeting de Monaco, un meeting que j'adore. Et surtout une belle opportunité, casser un peu la routine. Et en fait, je fais comme beaucoup, je ne fais pas de compète. Je laisse ma discipline et je dis, allez, je reprendrai l'entraînement en septembre, même un peu plus tard. On a repris en octobre. Et en fait, c'était une erreur. C'était une erreur parce que le Covid, je pense qu'il a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. J'étais pendant tout le premier confinement en Belgique et tu pouvais un peu sortir, mais je n'étais pas dans un entraînement de qualité. Nous, on a rejoint l'INSEP fin mai ou début mai, mais j'allais m'entraîner sans réels objectifs. Et moi, je suis quelqu'un qui doit marcher à l'objectif. Et donc, pas de compète, on se prépare pour 2021, mais dans des conditions un peu particulières parce qu'on ne sait pas trop pour les stages, etc., les contraintes qu'on peut avoir en se déplaçant. Donc je me prépare pour les JO. Sauf que moi, j'avais quasiment tout planifié sur l'année 2021 avec la fin d'un double master, avec... On savait qu'on voulait plus ou moins 2 ans et demi d'écart avec nos enfants. Du coup, il y avait tout ça qui est rentré en compte. C'était une année très riche et très lourde en termes d'objectifs et en termes de réalisation d'objectifs. Donc, j'ai participé au JO de Tokyo, mais en n'étant pas à 100%. Pas à 100%. C'est l'événement qui... et la performance, l'événement qui fait la perf, donc les championnats de France à Angers en juin, avec ce côté un peu émulation, le côté monde dans le stade qui a fait que je me suis qualifié au jeu. Mais sinon, je pense que ça aurait été une année pas blanche, mais limite, quoi. J'ai fait 3 compètes, j'ai pas optimisé la performance au maximum, je suis pas satisfait de cette saison, clairement pas. Mais voilà, il fallait s'adapter. Le Covid a demandé, je pense, c'est vraiment le mot, c'est une adaptation, c'est porter un masque, c'est éviter de se regrouper, ne pas choper le Covid par moment. Je me suis vacciné, j'ai fait les 2 doses qui m'ont mis à plat pendant la période de compète. C'était une grosse erreur de ma part. Mais voilà, il faut se protéger. Je faisais des allers-retours entre Paris et la Belgique, donc j'avais pas forcément le choix. Et c'est dur. Et c'est dur parce que un événement marquant, donc une blessure, peut remettre toute une carrière en question.
Et t'étais testé plusieurs fois aussi, du coup.
Oui.
Malgré le fait du coup d'être vacciné, ça t'empêchait pas de tester avant, après entraînement.
Enfin, tout ça, c'était une bulle. Hein.
Ouais,
l'objectif, c'était de se préserver, mais de préserver également les autres. Hein. C'était un petit rhume, un mal de tête même. C'était vraiment d'être à l'écoute de son corps par moment. Des fois, je pense que certaines personnes devaient psychoter un petit peu en disant « Ah, je me sens pas bien, qu'est-ce que c'est ?» Imagine, j'ai le Covid. Voilà. Après, en plus, à l'INSEP, par moment, il y a eu des petites vagues, mais c'était plutôt au mois de septembre, quand il n'y avait pas grand monde sur les sites d'entraînement. Il y avait eu des mini-clusters. Enfin, voilà, tu vois, c'était un ensemble. C'était « Ah, mais cette personne, je l'ai vue il y a 2 jours. Peut-être qu'elle était, peut-être que je suis qu'à contact. Ah, faut que je m'isole. » Donc, tu vois, c'était super compliqué à gérer. Mais après, je pense qu'on a rapidement mis ça de côté. Sauf quand on est retourné au Japon pour les JO, où eux, ils n'ont pas rigolé, quoi. Ils n'ont pas rigolé. Test salivaire tous les matins, prise de température. Et en fait, t'étais limite prisonnier de tes tests, parce que si à la moindre question ou le moindre test qui pouvait être un peu trop haut, tu pouvais être mis en quarantaine et finir tes JO dans une petite pièce de 10 mètres carrés.
Donc pour un athlète, c'est horrible, parce que du coup, toi, justement, qui a une routine bien établie d'avant, après, etc., là, on vient te casser ta routine. Et avec en plus une phase de stress, comme tu dis, où genre tu dis « Putain, attends, je viens de faire le test, si jamais il y a le truc, en plus c'est mort », tu commences aussi à te prendre la tête et t'es plus du tout dans ta compète, en fait.
Ouais, t'es plus du tout.
Donc, c'est très, très dur.
T'es plus du tout dans ta compète, t'es vraiment dans le côté « Qu'est-ce que je fais ? Comment je vais ? Tu te réveilles à la petite migraine ou quoi ?» Enfin, c'était vraiment, je pense, même si après on le faisait de manière un peu robotique, le fait de cracher dans ces petits tubes, de prendre notre température, c'était... il faut le faire parce qu'on doit le faire, mais faisons quand même attention. Et je pense que les Japonais ont été exceptionnels. Je pense que si les JO n'étaient pas au Japon, n'avaient pas eu lieu au Japon, peut-être qu'ils n'auraient pas eu lieu tout court, quoi. Mm-hmm. Parce que ils ont une organisation drastique, ils ont respecté les protocoles comme personne. Je pense qu'ils ont une discipline qui est assez incroyable. On peut le voir dans Squid Game en ce moment. mais du coup, non, franchement, c'est cool de voir que ça rigole pas chez eux et qu'ils ont réussi à tenir ces JO. Mais du coup, je pense que Paris 2024 aura une saveur particulière, parce que ça sera des jeux où j'espère seront à la normale. Retrouveront une identité ou une valeur ou des jeux, une fête à la hauteur des jeux précédents, puisque même meilleur, parce que pour moi, il n'y a pas photo entre Tokyo et Rio déjà. Et surtout parce que ton épreuve finissait et 48 heures après, tu devais quitter le pays déjà. Donc là, ça sera différent avec, je pense, des gens qui pourront profiter un peu plus des JO.
T'as prévu d'y aller ?
J'ai prévu d'y aller, d'être un acteur, soit sur le côté reconversion, ou soit sur le côté sportif, ou dans la fédé, enfin n'importe, mais être acteur. Je pense que c'est important aussi d'apporter son expérience, et puis mon expérience restera quand même très très fraîche. 3 ans, c'est rien, mais c'est beaucoup en même temps, parce qu'en 3 ans, tu peux livrer et créer et faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, dans la continuité de mes... dans la continuité de mon parcours, plutôt, il faut que ça serve. Il faut que ça serve aux plus jeunes, aux plus affirmés, aux gens qui vont s'y frotter, parce que les Jeux, c'est complètement différent d'un championnat du monde, d'un championnat d'Europe. Ça demande une force supplémentaire. Donc voilà, être accompagné des gens, c'est un objectif.
Très cool. Et on voit du coup que donc tu t'es un peu recentré sur ta petite famille au moment où ça allait pas, sur le deuxième coup de bambou, et là du coup le troisième avec, pas de perf... spécial, en tout cas toi en indiv, sur les JO, le côté hyper drastique des tests, c'est une compète pas forcément hyper agréable, même si ça reste les JO. Et là, du coup, aujourd'hui, c'est plutôt dans le taf, du coup, maintenant que tu trouves justement une deuxième vie, et c'est ça qui te permet de passer outre cet échec-là qui est passé, là.
Exactement, parce que déjà, c'est ça pour les 30 prochaines années de ma vie, peut-être moins, mais en tout cas, pas plus, on va pousser. Bon, j'ai pas dit gilet jaune, mais en tout cas, je suis dans le côté où je veux kiffer dans le travail autant que j'ai pu kiffer dans le sport. Créer des choses, réaliser des choses, connecter des choses. Je pense que ça va être très important pour moi dans les prochains mois. Et voilà, livrer, vraiment créer. Parce que la création aujourd'hui, je pense qu'on a tous cette possibilité de créer des choses. Mais ça va être de les créer et de les livrer. Et pas créer des choses pour les mettre dans le placard. Je pense qu'il y a vraiment un cross aujourd'hui entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Qui est par moments un peu mis de côté, mais avec mon bagage, avec mes années de césure, avec le sport, je me rends compte qu'on peut faire des choses plutôt cool. Et c'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Et voilà, de réaliser des belles choses, d'être aussi performant dans le monde du travail que j'ai pu l'être sur la piste. Et voilà.
Ça part bien en tout cas, ça part très bien cette histoire. J'ai une petite question pour qu'on boucle l'interview, Mam, est-ce que tu peux, alors comment je vais tourner ça plutôt, quel conseil, si tu avais 3 conseils à donner à un athlète justement, genre là qui vit potentiellement la plus grosse blessure de sa carrière, qui est en période de doute, qu'est-ce que tu dirais potentiellement justement à ton ancien toi au moment où tu l'as vécu ?
Mon ancien moi, ça a été d'être un à l'écoute de mon corps, parce que ce type de blessure là on peut penser que comme on est jeune ou ça va aller vite, etc. Non, il faut être à l'écoute de son corps et pas des gens, parce que souvent c'est assez personnel une blessure au final, parce que quand t'écoutes les gens on va dire je me suis fait ça, j'ai pris un Doliprane et ça allait. Non, c'est pas comme ça en fait. Peut-être que ça allait déjà mieux et que le Doliprane, ça a été un placebo pour cette personne. Donc, être à l'écoute de son corps. Bien sûr, les avis du médical, faut le prendre en compte et être très très à l'écoute de ça. Mais écouter quand même son corps, pas trop les gens. Bien s'entourer vers les bons choix, ne pas reporter à demain un rendez-vous médical, c'est aussi une des pires choses à faire, parce que quand on a une blessure il faut rien négliger, chaque détail compte, ça peut être 2-3 jours de récup de gagner, c'est vraiment très important d'être assez réactif. Donc ça, honnêtement, être à l'écoute, et surtout, une blessure permet, et aujourd'hui, avec toutes les choses qui sont mises en place, que ce soit des prépas physiques, des kinés, etc., on perd moins en termes de, allez, je sais pas, tu peux travailler ton cardio, tu peux travailler ta force, etc. Mais c'est pas à la salle que tu peux travailler ton mental, entre guillemets. Donc, savoir se poser, savoir prendre du temps pour soi et pour revenir le plus vite possible. Et ça, c'est très, très important. Donc mes conseils, c'est ça. Prendre soin de soi, être à l'écoute de son corps et ne pas lâcher dans les moments où... Parce qu'il y a toujours des moments de doute lorsqu'on a une blessure, et ne pas lâcher. Voilà, ne pas lâcher, être obstiné et se dire que ça va revenir. Et en étant positif dans le côté où, en se disant ça va revenir, et pas douter en disant « Ah, mais si ça passe pas, etc. » Parce que ça, c'est des barrières psychologiques qui peuvent être difficiles.
Très belle conclusion pour cette interview, Mam. Merci. On n'a pas fini. Il me reste du coup les fameuses questions pour la mention.
Questions pour la mention.
Avec la première question, Mam. Quelles sont pour toi les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie?
Ah ouais, les trois plus grandes vertus. Alors.
La question pute toujours pour commencer.
Ah ouais, non, elle est difficile. Bah, je dirais pour un homme, c'est d'avoir des enfants. C'est une vertu être papa, mm-hmm. au final. C'est une vertu qui est assez incroyable. C'est des émotions qui sont nouvelles. C'est des choses. C'est voir en fait l'évolution de petits êtres tous les jours. Alors, je sais que c'est pas dans le livre des vertus, mais je souhaite qu'on l'applique dès aujourd'hui.
Et bah, pour la première fois, on va le mettre. Et celui qui est pas content, on lui expliquera qu'on en a rien à foutre. Ouais,
exact,
okay.
Exactement. Être papa. Et après, je dirais. La patience aussi, parce que ça fait partie aussi des choses pour un papa, d'expliquer à ses enfants tous les jours non, ça il faut pas le faire, ça oui il faut le faire. C'est aussi quelque chose de très grand et de très important surtout. Et ça, je sais que c'est dans le livre des vertus, donc ça passera pour ceux qui n'étaient pas contents pour la première. Mais sinon, pour donner la troisième, c'est je dirais s'aimer. S'aimer, c'est une vertu. Aimer les autres, bien sûr, mais s'aimer aussi, c'est une vertu, parce que il faut s'aimer dans toutes les situations, quand on vit un moment difficile, quand on vit même un beau moment, mais surtout quand on vit un moment difficile comme un échec. S'aimer pour se donner toute cette énergie positive pour aller se relever et pour réaliser d'autres choses.
Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Et tu peux pas, tu disais du coup c'est important d'aimer les autres, ce qui est une certitude, mais si tu t'aimes pas toi-même, t'auras du mal à aimer les autres.
Exactement.
En fait, l'amour des autres, il passe aussi avant tout par l'amour de soi.
Hein. Donc, exactement.
Très cool, parfait, c'est très bien être papa, on l'avait jamais fait justement.
Ouais.
Nickel, très belle vertu mec, j'adore. Prochaine question, est-ce qu'il y a un bouquin, un podcast, un truc que t'as kiffé, que t'aimerais partager?
Là je lis un bouquin, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais qui s'appelle New Running, écrit par un monsieur qui s'appelle Jay Smith, qui est un des cofondateurs de l'agence Black Rainbow. Donc s'il l'entend et que c'est pas encore sorti, peut-être qu'il va me tirer les oreilles, mais mec, ton livre, en fait, en plus il y a un peu plus de 100 pages, je l'ai lu d'une vitesse, je l'ai kické, incroyable, parce qu'il y a beaucoup de vérité. Donc voilà, à tous tes auditeurs, je les invite à lire ce livre à la sortie, je sais pas quand il sortira exactement, mais en tout cas voilà, ça m'a même donné envie d'écrire un livre un jour, donc voilà.
Prochaine. Bah, peut-être que, tiens, ça rejoint ma dernière question, Mam. C'est quoi ton prochain objectif?
Mon prochain objectif, ça va être de mettre à jour Sport Strategy, hein, que je viens de récupérer, de le remettre à jour, lui donner une nouvelle image et d'être influent dans ce monde du sport business comme une référence en termes de sport business pour ce magazine, parce que je trouve qu'il a un potentiel, mais qui n'a pas encore été exploité, ou qui a été exploité, mais dans d'autres domaines. Et là, il y a des nouvelles choses assez intéressantes que je souhaite appliquer assez rapidement.
Trop stylé. Petit rituel de fin, avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux me résumer tout ce qu'on s'est dit? Ça fait une bonne demi-heure, là.
Ouais.
Genre une phrase, la bonne phrase de fin, la punchline.
La
tu
punchline.
Vois,
allez, la punchline, c'est... là tout de suite, c'est faites du trampoline avec vos échecs. Ouais, franchement, en fait, c'est ça, en fait. C'est, j'ai un échec, bah, je vais rebondir tellement, tellement fort que je vais aller plus haut que l'échec qui sera finalement derrière moi. Et si jamais je dois redescendre au moment où je suis plus dans les airs et retoucher le trampoline, c'est rebondir sur cet échec pour aller le plus haut possible une nouvelle fois.
C'est une belle métaphore, la métaphore du trampo. Je vais te la piquer, c'est en formation, ça. Okay. Enfin, je vais te citer, du coup. Je vais te la piquer, mais je vais te citer. Trop cool, même. Bah, écoute, merci infiniment, mec, pour ton temps.
Merci.
C'était
à toi.
Trop stylé. Il y a plein, plein de belles choses. Je pense que ceux qui écoutent là ont passé un très bon moment, ouais. Comme ça a été le cas là. Merci d'avoir accepté tout le meilleur.
C'est très
gentil. En tant que papa, en tant qu'éditeur, en tant que
toi aussi, mec.
Qu'acteur du sport, que tout, aussi, je pense que tu vas faire encore des très très belles choses.
Il faut.
La suite de la carrière, c'est que le début pour toi, mec.
C'est ça.
Trop
Merci
cool.
Merci beaucoup.
Ciao, ciao, mec.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant, tu connais la chanson. Si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a deux choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon bien sûr si t'as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, bah, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.